Nous avons été rejoints par des étudiants en BUT génie biologique à l'IUT de Tours. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Alors, moi, je m'appelle Raphaël. Je suis actuellement en BUT génie biologique, option diététique et nutrition. Et dans mon cas, avant de rejoindre le BUT génie biologique, j'ai été en bac général. Donc, pour le coup, moi, j'étais dans la première année avec les spécialités. Donc, j'ai fait spécialité physique SVT. Et j'ai décidé de rejoindre le BUT génie biologique, option diététique et nutrition pour cet aspect diététique et surtout dans mon cas, la nutrition du sport. Mm-hmm. Donc, je vais laisser la parole à Maëva pour se présenter.
Voilà, donc moi c'est Maëva et comme Raphaël, je viens d'un bac général option scientifique, donc SVT et physique-chimie avec l'option maths complémentaire. Et je ne sais pas encore exactement ce que j'aimerais faire après le BUT, en tout cas ce sera dans la diététique et peut-être pour travailler en libéral.
Bonjour, moi c'est Elisa, je suis aussi en troisième année de diététique. Je viens également d'un bac général, maths physique SVT et je ne sais pas encore ce que je veux faire aussi plus tard, dans quel secteur.
Bonjour, Elisa également. J'ai aussi fait un bac scientifique maths physique SVT et moi j'aimerais bien me tourner après le BUT vers tout ce qui est santé publique, les ONG, tout ça.
Alors il me semble que vous avez préparé une émission sur la nutrition, donc je peux vous laisser la parole.
Oui, tout à fait. On a envie ici de parler de l'impact des réseaux sociaux sur le comportement alimentaire des jeunes. Le comportement alimentaire, c'est l'ensemble des conduites d'un individu face à la consommation d'aliments. Ce comportement, il peut être troublé et évoluer vers des maladies dites psychiatriques, qui sont les troubles du comportement alimentaire. Il y en a trois principales, qui sont l'anorexie-boulimie, l'anorexie mentale, pardon, la boulimie et l'hyperphagie. La Fédération française d'anorexie-boulimie indique qu'il y aurait 1 million de personnes en France qui souffriraient de ces maladies et la moitié d'entre eux ne seraient pas diagnostiquées. Donc c'est pour cette raison qu'on a décidé de parler de ce sujet aujourd'hui pour que les personnes qui en souffrent sans le savoir puissent en prendre conscience et faire un premier pas vers la guérison. Les causes de ces maladies, elles sont multiples. Et du coup, c'est parfois difficile de trouver la source du problème. C'est des facteurs qui peuvent être psychologiques, génétiques, familiaux ou encore environnementaux. Mais là, aujourd'hui, on a choisi d'évoquer surtout l'aspect socio-culturel avec les réseaux sociaux et les images qui peuvent y véhiculer et en quoi ces images elles peuvent être facteurs de ces troubles. On a décidé de cibler les jeunes aussi parce que c'est eux qui utilisent le plus les réseaux sociaux. Il y a une étude qui a d'ailleurs montré que les 16-25 ans, ils passaient en moyenne 3 à 5 heures par jour sur les réseaux sociaux. Et si on fait le calcul, ça représente 45 jours par an. Donc on peut déjà imaginer l'impact que ça peut avoir sur notre santé mentale selon le contenu qu'on consomme. Il y a aussi des études qui ont montré un lien entre l'apparition des troubles du comportement alimentaire et l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, par exemple, une étude américaine qui a été menée sur près de 2000 jeunes de 19 à 32 ans a montré que les personnes qui passaient le plus de temps sur les réseaux sociaux avaient 2,2 à 2,6 fois plus de risques de souffrir d'un trouble du comportement alimentaire. Donc oui, les réseaux sociaux peuvent être une cause de troubles du comportement alimentaire, mais on peut aussi les voir sous un autre angle et on peut les voir comme des facteurs aussi de protection. Je vais laisser la parole à Elisa qui va vous en dire plus là-dessus.
Je vais donc parler dans quelle mesure les réseaux sociaux, ça peut être un facteur de protection contre les TCA. Déjà sur les réseaux sociaux, on peut retrouver des communautés en ligne sur des plateformes comme Facebook ou Instagram avec les personnes qui souffrent de TCA qui vont se regrouper, se connecter, partager des expériences et échanger autour de la maladie. Ces groupes ils permettent aux individus de partager leurs expériences ainsi que leurs luttes et leurs réussites. Il y a aussi des mouvements qui se mobilisent sur les réseaux sociaux, qui se manifestent par des hashtags. Par exemple, le hashtag Recovery is Possible, c'est un hashtag qui est utilisé par les personnes qui sont en rétablissement de troubles du comportement alimentaire. et qui vont partager comment ils ont réussi à s'en sortir. Ça peut être utile pour les personnes qui sont encore en train de lutter contre les troubles du comportement alimentaire, pour un peu savoir qu'il y a un chemin qui est possible vers la guérison, s'inspirer de ce que les autres peuvent avoir vécu. Il y a aussi le hashtag Body Positive, qui est un mouvement lié au mouvement Body Positive, qui encourage l'acceptation de tous les types de corps. Donc ce mouvement, il est utilisé par les influenceurs pour aider les gens à s'accepter au-delà des normes de beauté qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on peut aussi retrouver de la sensibilisation. En France, il y a une journée qui est dédiée aux luttes contre les TCA. Cette année, ça se passe le 2 juin. Et il y a des webinars, des conférences qui sont organisées partout en France pour relayer l'information sur l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. L'année dernière, le thème qui avait été choisi, ça avait été « Libérons la parole » pour montrer l'importance de l'entourage, de la famille et des amis dans la prise en charge contre les TCA. Ensuite, je vais parler un petit peu plus du monde de l'influence avec les influenceurs qu'on remarque sur les plateformes comme TikTok ou Instagram, qui sont de plus en plus transparents avec leurs followers, qui montrent de plus en plus la réalité derrière ce qu'ils veulent montrer sur les réseaux sociaux. Ces influenceurs, ils peuvent sensibiliser leurs followers aux risques et aux conséquences des troubles du comportement alimentaire. Ça peut être des témoignages précieux pour les personnes qui sont atteintes de ces troubles du comportement alimentaire, de voir des histoires authentiques, donc à travers les personnes qu'ils suivent sur les réseaux. Ces influenceurs, il faut qu'ils savent reconnaître l'impact qu'ils ont sur la santé mentale de leurs followers et d'agir de manière responsable en promouvant des comportements adaptés et sains. Comme l'a dit Maëva tout à l'heure, les jeunes, ils passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux. Parfois, ils vont suivre un influenceur tous les jours, voir ce qu'il fait, et ce sont des personnes très influençables qui peuvent reproduire, s'ils voient des choses néfastes sur les réseaux sociaux, les mêmes choses. Ça peut conduire justement à ces troubles du comportement alimentaire. J'aimerais terminer sur un point d'attention sur les influenceurs qui peuvent soit contribuer à la perpétuation des normes de beauté qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, soit dégager des messages positifs et bienveillants auprès de leur communauté. Et maintenant que j'ai un peu parlé de comment les réseaux sociaux peuvent être un facteur de protection contre les TCA, je vais laisser Elisa parler des limites qui peuvent exister et qui est notre sujet aujourd'hui.
Donc en effet, malgré les efforts des influenceurs pour promouvoir des messages positifs, la pression sociale et les normes de beauté ont un impact significatif sur la perception de soi et la santé mentale. Donc les plateformes comme Instagram, TikTok et YouTube jouent un rôle central dans cette redéfinition des normes esthétiques et ça présente souvent des images de corps minces, musclés comme étant la norme et un objectif à atteindre. Donc on retrouve tout ce qui est summer body, les photos avant-après, les filtres et les témoignages d'influenceurs. Et tout ça, ça peut conduire à un sentiment de honte et de stigmatisation pour ceux dont le corps ne correspond pas à cette image et une obsession de l'apparence physique. On a pu assister aussi à différents challenges sur TikTok notamment, comme le challenge Paper A4 qui vient tout droit de Chine et qui consistait à avoir une taille qui ne dépassait pas la largeur d'une feuille A4. Ou le tight gap, où on doit afficher une entrecuisse bien séparée. Ou encore l'earphone waist challenge, qui consistait à se munir d'une paire d'écouteurs filaires, à le passer autour de sa taille de foie, et pour prouver en fait qu'on était mince. Et de plus, la pression constante de rester connecté est aussi un facteur. Donc la technologie, elle nous connecte, mais elle nous expose également à une pression constante pour rester à la page en matière d'apparence. On a vu que les tendances, elles évoluaient rapidement et la nécessité de suivre ces changements, ça peut être oppressant. On a vu notamment l'esthétique des années 2000, qu'on appelait l'héroïne chic. Donc c'était une tendance qui a été popularisée dans les années 90 par des marques comme Calvin Klein et qui mettait en avant des mannequins d'une grande maigreur comme Kate Moss, qui disait elle-même « rien n'a meilleur goût que le goût de la minceur ». Et l'héroïne chic consistait donc en une maigreur assumée et un culte absolu de la minceur. Et plus récemment, on a vu faire surface une autre tendance qui était l'esthétique Kardashian. Donc au contraire, ça mettait en avant des formes plus arrondies, mais toujours aussi réalistes, comme des hanches larges, un fessier proéminent, une forte poitrine, mais toujours avec une taille très fine et un ventre plat. Donc les réseaux sociaux, ils ont créé un nouvel espace où l'apparence occupe une place centrale. Et on a vu que peu importe l'esthétisme et l'époque, l'alimentation, elle sera toujours en première ligne quand il s'agit de la vision de notre corps et des pressions sociales qui vont avec. Raphaël, il nous en parlera plus en détail tout à l'heure. Dans un second temps, on a pu voir émerger sur les réseaux sociaux l'engouement du body positive, comme le disait Elisa. Donc c'est un mouvement qui a pris son essor en 1996 grâce à deux psychothérapeutes, Connie Sobzak et Elizabeth Scott, qui ont décidé de créer l'organisation The Body Positive à la suite de troubles alimentaires vécus par l'une d'entre elles. Donc au départ, leur idée, c'était de lutter contre tous les risques liés chez les femmes à une image corporelle négative. Et maintenant, on peut trouver plus de 17 millions de publications qui affluent sur le hashtag, sur Instagram, et on peut voir des silhouettes multiples qui s'affichent en sous-vêtements, qui prônent l'acceptation de soi. Donc ça a de nombreux bienfaits, comme l'a présenté Elisa, mais ça soulève aussi certains problèmes, notamment le fait de dédramatiser des pathologies réelles. Donc en effet, des personnes qui souffrent de réelles pathologies comme l'obésité ou l'anorexie mentale, ils peuvent interpréter ça comme étant une validation de leur comportement alimentaire malsain, comme la suralimentation, et sans tenir compte en fait des risques pour la santé que ça peut engendrer. Deuxièmement, on a aussi l'utilisation en marketing. On a pu voir que le body positivisme, il tend à être récupéré par les marques. Ils en font un argument marketing pour tenter d'élargir leur cible. Donc l'objectif, il est purement commercial ici. Et même si le body positive, il a pu permettre une certaine évolution dans la mode et dans les défilés, où on a pu voir des mannequins avec diverses morphologies qui a permis d'être présenté, il y a un problème qui reste le même. Donc, comme l'avait dit Aude Légret, qui était une ancienne directrice de l'agence Péclair, une agence de conseil en tendance, elle avait précisé dans une interview que les différentes marques de mode, elles sont à la recherche du normal, entre guillemets, mais toujours sublimé. Donc, on voit des mannequins taille 48, mais elles obéissent toujours aux normes de la société. Donc, elles ont un ventre plat, elles ont une taille, elles ont des cuisses dessinées, et elles ont un visage sans double menton ou sans gros joues. Donc on constate que si aujourd'hui l'industrie de la mode tend régulièrement à prôner l'acceptation de soi, le corps il doit quand même pas être trop éloigné des normes sociétales en étant ni trop gros, ni trop racisé ou ni trop poilu. Et enfin, on a pu aussi en voir en découler la dysmorphophobie. Donc sans trop aller dans les détails, la dysmorphophobie c'est un trouble mental caractérisé par une idée obsessive qu'une partie de son corps, voire son corps en entier, est remplie de défauts. Et ça pose problème parce que quand quelqu'un de mince exprime une perception déformée de son corps en se considérant comme gros, malgré que son poids peut être sain ou même en dessous de la norme, ça peut avoir des répercussions sur les personnes réellement en surpoids. Et ces remarques elles peuvent être perçues comme une invalidation des luttes véritables et des personnes en surpoids, et donc de décrédibiliser la cause réelle. Et quand bien même les personnes bien intentionnées s'affichent en assumant leur rondeur, elles subissent quand même des interactions négatives. Donc ce qu'on appelle le body shaming, qui est très en vogue sur les réseaux sociaux, notamment X, donc anciennement Twitter, qui est connu pour être un réseau très virulent. Donc le but, c'était d'attaquer les personnes sur leur corps ou sur leur apparence. Et le pire dans tout ça, c'est les commentaires méchants qu'on peut voir sous les posts d'influenceurs, qui touchent non seulement la personne qui a posté la photo, mais aussi les utilisateurs standards comme vous et moi, où on peut se sentir concerné. Ça peut avoir des conséquences dévastatrices sur notre santé mentale et sur notre estime de soi. Et donc toutes ces pressions sociales peuvent également conduire à des comportements alimentaires malsains comme des régimes tendances, et qui peuvent donc affecter négativement la santé mentale et notre santé physique. Et je laisse Raphaël développer cette partie.
Donc comme l'a dit Elisa, il y a beaucoup de pressions sociales qui vont s'installer à travers les réseaux sociaux, et ça peut mener toutes les personnes à justement agir sur leur alimentation d'une certaine manière, et donc à développer ce qu'on appelle des TCA, donc troubles du comportement alimentaire. À travers ça, il y a plusieurs façons où ces TCA justement peuvent se créer. Déjà, comme l'a dit Elisa, il y a tout ce qui est régime tendance. Donc quand je parle de régime tendance, c'est les régimes que suivent certains influenceurs, comme par exemple l'alimentation cétogène, donc qui consiste à manger beaucoup de lipides mais pas beaucoup de glucides, donc tout ce qui est féculent, etc., sont enlevés. Il y a aussi la tendance du jeûne intermittent ou alors la monodiète, le fait de manger qu'un seul aliment pendant une certaine période, que ce soit plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Et il y a aussi certaines alimentations sportives qui sont considérées comme très restrictives, soit très riches en protéines et très pauvres en calories, qui justement peuvent suivre certaines personnes en suivant des influenceurs, et notamment dans le domaine du physique, de la minceur, etc. Le sport est souvent lié et c'est pour ça que c'est pas rare qu'on retrouve des personnes qui veulent faire du sport et qui veulent être minces à suivre ce genre de régime. Et ces régimes tendances, il y a eu un lien justement au niveau des études. Donc par exemple, une étude de 2023 a montré le lien entre les alimentations restrictives et les TCA, et plus particulièrement le domaine sportif. Mais il y a eu aussi d'autres comportements restrictifs qui ont été prouvés comme étant liés au développement des TCA. Et par exemple, il y a une méthode, donc c'est pas une alimentation en tant que telle, comme par exemple la diète cétogène, mais c'est une méthode qu'on nomme le cheat meal par exemple, qui peut aussi avoir un impact dans le développement des TCA. Et le cheat meal, ça consiste tout simplement au fait de se restreindre par exemple toute la semaine, et le week-end on se fait plaisir, on va dire, on se permet de manger certains aliments, ou du moins tous les aliments qu'on souhaite. Et ça peut mener à des comportements assez extrémistes, comme le fait de se restreindre toute la semaine et le week-end on mange tout ce qu'on veut. Et ça peut mener justement à une mauvaise relation, on va dire, avec notre alimentation. Et le problème, c'est que si les influenceurs sur les réseaux montrent ce type d'alimentation sans forcément conseiller leur public à la suivre, eh bien, comme l'ont dit mes camarades juste avant, le fait de suivre ces influenceurs tous les jours à travers leurs stories, leurs posts, etc., peut justement mener ces personnes très influençables à faire de même parce qu'elles souhaitent avoir le même physique, la même vie ou autre. Et justement, cette méthode de cheat meal, par exemple, peut être considérée comme une hyperphagie déguisée. Donc l'hyperphagie, c'est ce dont a cité Maeva au début par rapport aux différents troubles du comportement alimentaire. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a beaucoup d'impacts sur l'alimentation qui peuvent se faire justement à l'origine avec les réseaux sociaux. Mais il faut aussi garder en compte, et on en a déjà parlé avant, que les influenceurs peuvent être plus ou moins transparents, et même s'il y a plus de transparence et que les influenceurs font de plus en plus la démarche pour justement montrer un maximum de choses à leur communauté en ajustant ce qu'ils disent, en montrant la nuance, c'est-à-dire la vérité et pas seulement ce qui paraît beau, eh bien il y a quand même des personnes, des influenceurs qui continuent à le faire, à juste montrer ce qui leur semble être le mieux et du coup à mentir en quelque sorte à leur communauté. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on suit beaucoup d'influenceurs sur les réseaux, puisqu'il faut toujours considérer que selon les personnes qu'on suive, eh bien, ça peut avoir une mauvaise influence sur nous. Et que par exemple, on peut très bien suivre un influenceur qui est considéré comme un modèle pour nous, alors que cette personne est victime de troubles du comportement alimentaire, sans forcément qu'elle en parle. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder. Il faut quand même considérer, comme l'avait dit Elisa, que les réseaux, ça reste une vitrine et que ce n'est pas la réalité des choses, qu'il y a toujours des choses qu'on ne saura pas. Et enfin, je voulais juste finir aussi que les TCA, ça n'a pas seulement un lien avec l'alimentation, mais ça a aussi plein de répercussions sur la vie, et notamment sur la vie sociale, donc plutôt le domaine psychologique, puisque les TCA peuvent justement mener à l'isolation, c'est-à-dire au fait de soit ne plus être avec ses proches, mais aussi que ce soit avec sa famille, ses amis, etc., de se retrouver tout seul, parce que personne, on va dire, cherche à forcément comprendre pourquoi est-ce qu'on agit de cette façon avec notre alimentation, et ça peut amener à beaucoup de conséquences justement par la suite, que ce soit sur la santé, on va dire, physique, comme par exemple une maigreur si on parle de l'anorexie, ou que ce soit aussi mental, comme par exemple la dépression et d'autres choses. Et je vais redonner la parole à Maeva pour qu'elle puisse conclure un petit peu tout ce qu'on a dit.
Merci Raphaël. Oui, pour conclure un petit peu sur ce qu'on a pu dire, on tient à rappeler qu'on n'est pas là pour dire aux gens de bannir les réseaux sociaux de leur vie, parce qu'on est conscient que ça fait partie de notre vie, surtout en tant que jeune, on a presque grandi avec ça. Mais ça reste une pratique qui est banalisée et pourtant c'est pas sans risque pour la santé. Donc c'est important de savoir bien les utiliser pour éviter de tomber dans des extrêmes dangereux comme les troubles du comportement alimentaire. Donc pour vous aider à vous en sortir ou à mieux gérer cette consommation des réseaux sociaux, on a prévu 5 petits conseils à vous donner. Le premier, c'est d'essayer de modérer un peu son utilisation des réseaux sociaux. Ça commence déjà par regarder combien de temps on y passe chaque jour, et ça permet d'en prendre conscience. Et on peut du coup se fixer des petits challenges, essayer de diminuer un petit peu chaque jour. Et pour ce faire, on peut mettre des limites de temps d'écran, des limites d'application, pour essayer d'y passer moins de temps. Et on peut aussi se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire au lieu d'être sur notre téléphone pendant tout ce temps, tous les jours, comment on pourrait peut-être avoir plus de temps pour nos passions. On peut se demander ce qui nous passionne et aussi regarder les sujets qui nous intéressent sur les réseaux sociaux. Ça peut être intéressant de lire des choses sur le sujet, de lire des livres, au lieu de regarder simplement ce qui est disponible sur les réseaux sociaux. Ça permettrait d'avoir des sources plus fiables. Et ça permet aussi de travailler sa capacité d'attention qui est un peu qui diminue à force d'utiliser les réseaux sociaux. Le deuxième conseil, c'est aussi de faire le tri dans ses abonnements. Comme on l'a dit, il y a des influenceurs qui donnent des conseils et qui pourtant ne sont pas forcément légitimes à le faire ou qui ont même des troubles du comportement alimentaire. Pour ça, on peut regarder, par exemple, dans le domaine de l'alimentation, si les personnes qui donnent des conseils en nutrition sont diplômées ou non. À savoir que y a seuls les diététiciens nutritionnistes et les médecins nutritionnistes qui sont légitimes à donner des conseils dans ce domaine. Donc essayer de faire un tri, ça peut être important. Le troisième conseil, c'est de faire le test de SCoV si vous pensez avoir des troubles du comportement alimentaire. C'est un test qui est disponible sur journeemondialetca.fr, qui est très rapide en 5 questions et ça permet de s'auto-sonder pour voir si peut-être on souffre de troubles. Quatrième conseil, c'est d'en parler. Il y a une ligne d'écoute anonyme qui existe, c'est le 09 69 325 900. Et elle permet d'être en contact avec des spécialistes, donc des psychologues ou des médecins, pour faire un premier pas vers la guérison. Et le dernier conseil, qui est pour nous le plus important, c'est de s'orienter vers des professionnels de santé, donc psychologues ou diététiciens nutritionnistes. Parce que l'important, c'est vraiment de sortir de ces maladies, de ne pas rester seul avec ça, parce que même si c'est des maladies qu'on ne voit pas, c'est des maladies qui prennent beaucoup de place dans la tête des personnes qui en souffrent. Et malheureusement, elles sont tout le temps là avec eux et elles les empêchent souvent de profiter de l'instant présent. Et on a quand même d'autres choses à faire dans la vie que de penser constamment à ce qu'on a le droit de manger ou non. Et pour terminer, on a aussi d'autres choses à faire dans la vie que d'être sur notre téléphone.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce savoir très utile. Je pense que je vais me les appliquer à moi-même aussi. Est-ce qu'on ferait pas une petite pause musicale ?